Proverbe tibétain, quand tu arrives en haut de la montagne, continue de grimper. Fréquence Terre, la radio nature.
Fréquence Terre, nous sommes en direct du salon Planète Durable sur le stand féminimbio.com. Et nous allons parler alimentation, les risques liés à l'alimentation, aux produits chimiques, avec Isabelle Saporta, écrivain, journaliste, politologue. Bonjour.
Bonjour.
Et puis pour animer ce débat, pour mener l'interview, nous sommes avec Cyril Souche de cdurable.info. Rebonjour Cyril.
Rebonjour Grégory. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Vous êtes aussi l'auteur du documentaire Manger peut-il nuire à notre santé. Vous avez parcouru les campagnes françaises. Vous êtes l'auteur donc de ce livre noir de l'agriculture.
Ouais.
Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, parce qu'on aime bien s'intéresser aussi à l'être humain qui porte ces idées, racontez-nous un peu quel est le parcours qui vous a engagé, qui vous a convaincu de vous engager à donner des informations dans des domaines qui sont...
Eh bien, écoutez, ça fait une petite dizaine d'années maintenant que je sillonne un peu les campagnes de France pour voir un petit peu comment tout se passe. C'est Jean-Pierre Coff, en fait, qui m'a mis le pied à l'étrier. J'ai préparé les émissions pour lui à France Inter dans Ça se bouffe pas, ça se mange. Et il m'a dit, ma chérie, si tu veux parler des paysans, il va falloir que tu les connaisses. Et donc, il m'a envoyé un petit peu partout en France. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et par ailleurs, effectivement, non seulement j'ai travaillé beaucoup pour lui sur ces questions, sur les questions de l'eau, sur les questions du pain, sur les questions des traitements phytosanitaires, etc. Mais en plus, effectivement, j'ai préparé ce documentaire pour France 3. Et là, on a remonté 5 filières, la filière porcine, l'arboriculture, le pain, le poisson en Norvège, la pomme, je sais pas, j'en passe, et effectivement la tomate. Et effectivement, si vous voulez, en faisant ce documentaire, en ramassant tout ce que j'avais pu faire pour Jean-Pierre Coff, tous les papiers que j'avais pu faire, je me suis dit, on est quand même dans un monde, vous voyez, il y a un très joli proverbe tibétain qui introduisait votre émission, et là, moi, c'était pas du tout un joli proverbe tibétain, j'avais juste l'impression d'être dans un monde de Shaddock. C'est-à-dire que c'est pas qu'on continue à monter quand on était en haut de la montagne, c'est qu'on continue à pomper quand on est vraiment au plus profond du marasme. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, effectivement, on est là dans un système où je me suis dit, mais c'est quand même hallucinant parce que, les agriculteurs vivent pas bien. Ils sont toujours en train de manifester, ils vivent mal, ils gagnent mal leur vie, tout va mal. Donc c'est une cata. Ils se suicident, c'est un des métiers où on se suicide le plus. Il y a plus d'un suicide par jour. Ils sont malades. Il y a une association de victimes qui vient de se créer, qui s'appelle Phytovictimes, le 19 mars dernier. Et pour autant, nous, consommateurs, on n'est pas heureux non plus. C'est-à-dire qu'on paye cher une nourriture dans laquelle on n'a plus confiance. En tant que contribuable, on paye hyper cher la facture de dépollution qui est créée par cette agriculture productiviste. Et donc, je me suis dit, à un moment... Puisqu'on est dans ce système de Shaddock, il va falloir le démonter et comprendre comment, de la fourche à la fourchette, notre système agro-industriel va dans le mur. Il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Alors justement, parce que là, c'est un constat, on reste un peu sans voix. Vous avez constaté une situation totalement absurde.
Ouais.
Vous la dénoncez. Qu'est-ce que vous faites passer comme message? C'est-à-dire, quelle est la part qui nous appartient dans cette situation absurde? Est-ce qu'il faut arrêter de pomper? Est-ce qu'il faut cultiver son petit... Ou est-ce qu'au contraire, il faut dénoncer?
Alors, c'est très compliqué parce que moi, j'ai beaucoup je suis très heureuse d'ailleurs parce que c'est vrai que ce livre a touché énormément de gens, ce qui n'était pas forcément gagné au départ. C'est devenu un best-seller. Pourquoi? Parce que les gens ont envie, effectivement, qu'on leur donne des solutions. La question, c'est que souvent, on dit la faute au consommateur. Moi, je trouve que le consommateur, il en a déjà beaucoup sur la patate, si je puis me permettre. Si vous voulez, moi, ce dont je me suis rendu compte en écrivant ce livre, en faisant cette enquête, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, le consommateur, il paye 4 fois sa nourriture. Il la paye une première fois en subventionnant les agriculteurs, une seconde fois en glissant la nourriture dans son caddie, une troisième fois en payant la facture de dépollution d'eau et une quatrième fois en payant la facture de santé publique. Alors maintenant, vous dites au consommateur, tu consommes comme un imbécile, il faut que tu changes. Mais comment vous voulez qu'il change si les pouvoirs publics, eux, ne changent pas la façon dont ils subventionnent l'agriculture? J'ai eu un grand échange par médias interposés avec Bruno Le Maire, notre ministre de l'Agriculture, ou comme j'ai l'habitude de l'appeler, la voix de son maître de la FNSEA. Et donc Bruno Le Maire expliquait doctement, pour répondre à une interview que j'avais donnée, que vraiment c'était n'importe quoi tout ce que je pouvais dire, parce que quand même cette année l'agriculture, le gouvernement français et l'Europe avaient donné 100 millions d'euros au bio français. Et alors là, c'était cocorico, vous voyez, 100 millions d'euros, imaginez quand même, ma bonne dame, quand même, c'est pas rien, quoi. 100 millions d'euros rapportés aux 12,5 milliards d'euros qu'on a donnés dans l'agriculture productiviste cette année, c'est même pas 0,8%, quoi.
Hein ? Ça me rappelle ce que nous disait Fabrice Nicolino hier par rapport au Grenelle de l'environnement qui avait abouti à une victoire. La réduction de 50% des pesticides et qui était devenue si c'est possible.
Si c'est possible. Mais oui, parce que tout est si c'est possible. Et alors, en plus, Fabrice Nicolino vous a sûrement parlé, effectivement, aussi, il y a un espèce de lobbying hallucinant qui est fait, effectivement, de la part de la FNSEA ou de ces dérivés qui sont, par exemple, vous avez un lobby qui s'est créé qui s'appelle Sauvons les fruits et légumes de France. Alors, vous dites, ah, quand même, Sauvons les fruits et légumes de France, c'est super. Non, sauf que c'est des gens qui se battent au quotidien pour qu'il y ait de plus en plus de pesticides effectivement autorisés, qui trouvent qu'il y a des impasses technologiques parce qu'il n'y a plus assez de pesticides autorisés. Si vous voulez, tous ces gens mis bout à bout, ces lobbies, ont obtenu cette année 74 dérogations à Bruxelles sur des pesticides interdits. 74 dérogations, c'est-à-dire ça sert à quoi de faire des législations de Grenelle restrictives, ça sert à quoi de faire des législations européennes restrictives si les lobbies après, chaque année, peuvent obtenir 74 dérogations. Imaginez, c'est quand même pas rien, 74 dérogations. Et si vous voulez, pourquoi ils ont obtenu ces dérogations ? Parce que c'était des dangers imprévisibles. Imaginez-vous, il faut croire que 2010, on a été face à vraiment de très nombreux dangers imprévisibles. Donc moi, si vous voulez, pour mettre un petit peu de joie dans tout ça, je pense qu'il y a effectivement de quoi avoir, d'être optimiste, parce que le jour où notre ministre de l'Agriculture, celui-là ou un autre, ou n'importe quel autre, hein, on sait jamais, on sait, un miracle, un ministre de l'Agriculture courageux, ça peut exister, hein, on n'en a pas vu jusqu'à présent, mais on sait jamais, décide de mettre plus que 100 millions d'euros sur le bio, ça marchera. Je vous rappelle que quand même, on était censé arriver l'année prochaine, on est en 2011, l'année prochaine, on était censé avoir 6% de la surface agricole utile en bio. On
est 12% d'ici
20% d'ici 2020.
D'ici 2020.
Et on est cette année à même pas 3%. Donc il y a un moment aussi où il faut quand même que les politiques soient mis face à leurs responsabilités. Ils n'investissent pas sur le bio, on n'avance pas sur le bio, on est en train de perdre chaque année des parts de marché. En France, on importe 40% de bio qui sont composés de lait, d'œufs, de viande de porc, c'est-à-dire tout ce qu'on pourrait produire chez nous, qu'on importe comme des imbéciles, parce que nos politiques ne veulent pas soutenir cette filière. Alors, c'est complètement absurde.
Alors, est-ce que c'est au niveau de l'Europe qu'il faut agir ? Parce que à Bruxelles, on est en train de redéfinir la politique agricole commune pour les prochochaines années. Ce sera, je crois, en 2013.
Ouais, tout à fait.
Est-ce que c'est pas au niveau européen qu'il faut agir ? Le niveau national est déjà dépassé. Comment on peut faire ?
Il y a les deux. C'est-à-dire, au niveau européen, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un commissaire à l'agriculture qui s'appelle Dacian Ciolos, qui est un homme remarquable, qui a l'air de vouloir vraiment lutter contre les lobbies, de vouloir se battre, et vraiment il fait un travail remarquable. Le point positif, c'est cet homme-là. Le point négatif, c'est que vous voyez, le 23 mars dernier déjà, les ministres de l'agriculture des pays de l'Union se sont réunis, ils ont obtenu déjà une chose, c'est la reconduction à l'identique quasiment des aides, c'est-à-dire que en fait ce que demandaient les gens de la Confédération paysanne, les gens des ONG environnementales, c'était finalement qu'on arrête de donner les trois quarts des aides de la politique agricole commune aux quarts des exploitations productivistes les plus pollueuses en gros et les plus destructrices d'emplois. Et bon bah ça, sachez qu'effectivement on a beau avoir un commissaire de l'agriculture très très bien, il a rien pu faire contre ces ministres de l'agriculture des différents pays qui, eux, ne soutiennent qu'une seule chose, c'est les lobbies, quoi. Moi, je pense qu'il faut jouer sur les deux niveaux. À l'Europe, on a une chance. Vraiment, on a une chance dans les deux ans qui viennent avec cet homme-là. Mais par contre, effectivement, il ne faut pas lâcher au niveau français et au niveau hexagonal. Si vous voulez, pour préparer votre émission, j'étais en train de regarder la clôture du congrès de la FNSEA qui s'est tenu il y a deux jours, là, à Saint-Malo. Quand même, ont été dépêchés sur place, non seulement le ministre de l'Agriculture, Bruno Le Maire, mais également le Premier ministre, François Fillon. Et le Premier ministre, François Fillon, pour clôturer le congrès de la FNSEA, a quand même dit qu'il allait soutenir les agriculteurs pour lutter contre le boulet de l'environnement qui nuisait à la compétitivité des exploitations agricoles. Il a dit après que c'était quand même, il y en avait assez de mettre sur le dos de l'agriculture les problèmes de pollution de l'eau et que tout ça, c'était de la faute des consommateurs. Et enfin, il a dit effectivement qu'il fallait desserrer les taux de l'environnement, c'est-à-dire reprenant ce qu'avait dit Sarkozy, Nicolas Sarkozy, notre cher président, il y a 2 ans au Salon d'agriculture, l'environnement, maintenant, ça commence à bien faire. On voit qu'on rentre dans une période, comment dire, électorale, et que la doxa, effectivement, de la majorité, ce sera ça. Alors moi, je voudrais quand même juste rappeler à vos auditeurs que 96% des points de surveillance de nos eaux de surface en France sont contaminés par les pesticides, que d'après le rapport du Conseil d'État qui est paru en juin dernier, et quand même, le Conseil d'État, c'est pas des dangereux trotskistes, ni des green activistes délirants, hein. Je veux dire, c'est quand même les gens du Conseil d'État, hein. Et donc, d'après, effectivement, ce rapport du Conseil d'État, on a 60% de la pollution au phosphate qui est due à l'agriculture productiviste, 70% de la pollution aux pesticides et 75% de la pollution aux nitrates. Et à côté de ça, la facture de dépollution d'eau n'est payée qu'à hauteur de 1% par les agriculteurs. Alors moi, je veux bien qu'on en mette encore une couche sur la tronche des consommateurs, si je puis me permettre cette allocution un peu grossière. Mais si vous voulez, il y a un moment, faut arrêter de se fiche de la tronche des gens, hein. Arrêtez vraiment, quoi. Arrêtez de nous prendre pour des canards sauvages, parce que effectivement, c'est l'agriculteur qui pompe de l'eau, l'agriculture productiviste, et c'est l'agriculture productiviste qui la pollue. Donc maintenant, c'est nous, consommateurs, qui payons à 90% la dépollution de notre eau. Et voilà, et ce que dit effectivement Fillon, c'est très bien, continuons comme ça. Non, c'est pas très bien, ne continuons pas comme ça, parce que comme ça, on va dans le mur.
C'est un manque de volonté politique,
ah oui,
ça veut
c'est
dire
très
que
clair. C'est une lâcheté
il y a des
politique.
Enjeux économiques tellement gros derrière que personne ne veut agir ou
Ah oui, c'est exactement ça. Ça, c'est pas ou rien du tout. Ou vous avez tout à fait raison. C'est effectivement le. Si vous voulez, moi, à chaque fois, je discute avec des gens de la Confédération paysanne, etc. Ils me disent, on voit arriver le nouveau ministre de l'Agriculture. À chaque fois, il est plein de bons sentiments, que ce soit le maire, que ce soit celui d'avant ou celui d'après. C'est pareil. Hein. Je veux dire, j'ai rien contre celui-là. C'est juste qu'après, ils sont repris en main par la FNSEA. Effectivement, ce sont des intérêts politiques, des intérêts économiques massifs. Si vous voulez, jusqu'à cette année. La FNSEA faisait semblant de porter à sa tête effectivement un éleveur. Donc on se disait, bon, on a l'impression que la FNSEA ne soutient que les intérêts des gros céréaliers, mais quand même, ils mettent des éleveurs à leur tête. Bon, là, cette année, ils n'ont même pas fait semblant. Hein, ils ont foutu Xavier Belin à la tête de la FNSEA. Xavier Belin, c'est une énorme exploitation céréalière. C'est le patron de Sophie Protéol. Sophie Protéol, voilà, c'est tout ce qu'on aime, c'est-à-dire les biodiesels et l'alimentation pour animal glossandaire, ce qui quand même recycle tout ce qui n'a pas servi au biodiesel pour nourrir nos cochons. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé quand même avec le scandale de la dioxine en janvier dernier en Allemagne, mais ça aurait pu nous tomber sur la tronche en France. Hein, je veux dire, on est là, on est content. Coup de bol, c'est tombé sur nos voisins, mais ça aurait pu tomber sur nous pareil. Parce qu'effectivement, si vous voulez, on est dans un système de la recherche du profit maximum et effectivement où on se contrefiche des consommateurs, où on se contrefiche des éleveurs, parce que c'est ça le pire finalement. Ils se contrefichent de nous, ils sont cyniques. Bon, c'est triste, mais ça, c'est pas très étonnant. Mais si vous voulez, quand même, c'est des syndicats qui sont portés par les paysans, ce sont des syndicats de paysans, ce sont des coopératives de paysans et ce sont des gens qui jouent contre les paysans. Et le pire du pire, c'est qu'effectivement, nos pouvoirs politiques continuent à soutenir ces gens-là, ces gens qui jouent contre les paysans.
Il n'y a qu'en France que ça se passe, ce système-là. La FNSEA n'existe pas en Allemagne, en Espagne, en Angleterre.
Non, mais c'est vrai que les lobbies sont les mêmes.
Est-ce que c'est partout pareil en Europe ?
Bien sûr, les lobbies sont partout très importants, les lobbies économiques, et que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Allemagne. Justement, l'Allemagne est en train de grignoter des parts de marché parce qu'ils sont encore plus durs que nous, effectivement, dans cette espèce d'industrialisation du vivant. Mais moi, la question que je pose, effectivement, vous voyez, contrairement à la FNSEA et à Bruno Le Maire, qui ne cesse de pleurer parce que effectivement on perd des parts de marché face à l'agriculture allemande. Pourquoi justement ne pas se relocaliser ? Pourquoi ne pas prendre cette opportunité qui est que, voilà, cette course, si vous voulez, cette course à produire toujours plus pour toujours moins cher, on l'a perdue, on ne la gagnera pas. Parce que la France a beau avoir une très belle surface agricole utile, nous ne sommes pas taillés comme les plaines argentines, nous ne ferons jamais des productions aussi massives, nous n'aurons jamais ces rendements. Donc pourquoi ne pas prendre cette chance qui est d'avoir effectivement une surface agricole utile si diversifiée pour relocaliser les emplois, pour relocaliser notre agriculture? Je vous ferai remarquer que là, la dernière quand même trouvaille de Bruno Le Maire et de la FNSEA, parce que c'est quand même les tontons flingueurs ensemble, hein, c'est quand même, c'est vraiment hallucinant, c'est effectivement de dire, les céréales, le prix des céréales explose, eh ben, c'est pas grave, maintenant les consommateurs paieront plus cher leur viande parce que les éleveurs s'en sortent pas. Est-ce que c'est de notre faute à nous, consommateurs, si les éleveurs importent 72% des protéines? C'est de ma faute à moi? C'est de votre faute à vous? Je crois pas, hein. C'est pas de notre faute. Nous, on n'y est pour rien. Nous, on demande qu'une chose, c'est qu'ils travaillent main dans la main avec les céréaliers en France et qu'on fasse quelque chose de local et qu'on ne soit pas soumis au marché mondialisé. Eh ben non. Ça, c'est pas ça la solution qu'ils trouvaient. C'est toujours des solutions de Shadok. La solution, c'est de dire, consommateur, tu paieras plus cher. Ah ouais, mais ce sera mieux au moins ce que je vais manger. Ce sera produit localement. Ben non. Ce sera toujours la même cochonnerie. Ce sera toujours importé des pays les plus pauvres. Et en plus, tu paieras plus cher. Donc, si vous voulez, il y a un moment, un consommateur, ça devient un sacerdoce. Hein.
Est-ce qu'il y a quand même des endroits où ça marche? Parce que vous disiez tout à l'heure, la France importe 40% de sa nourriture bio. Il faut bien qu'elle l'importe de quelque part. Il y a des pays où les réseaux sont développés.
Ben, il y a des pays, effectivement, où on a mis beaucoup plus d'argent dans le bio. Et c'est sûr que nous, il y a 10 ans encore... si vous voulez, mais partout. On est en train de perdre des parts de marché partout. On est en train d'être effectivement moins bon que l'Italie, moins bon que l'Espagne, moins bon partout. Alors qu'on était meilleur que partout il y a 10 ans encore, si vous voulez. Il y a 15 ans, peut-être, j'exagère. Hein. Donc, si vous voulez, de toute façon, là, effectivement, il n'y a pas de volonté politique chez nous. C'est très clair. La volonté politique chez nous n'est pas dans le soutien du bio. Mais on a des initiatives locales qui fonctionnent. Quand vous allez dans les campagnes, vous avez effectivement toutes les initiatives des CIVAM, des CEDAPA autour d'André Pochon, de tous ces gens-là. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'ils ne sont pas soutenus, ces gens-là. Ils ont réussi finalement, par la force de leur volonté, une espèce de force de caractère, de modifier les choses. Mais si vous voulez, le problème, c'est qu'ils ne sont pas aidés. Quand vous voyez qu'en France, par exemple, là, il y a eu un peu d'aide qui a été mise de la part des pouvoirs publics là-dessus, mais ça n'évolue pas énormément pourtant. On importe donc, comme je vous le disais, 72% de nos protéines. C'est pas compliqué, il suffit de planter des protéagineux. Hein. Les protéagineux, c'est les pois, la févrole, etc. Ce sont en plus des variétés qui captent l'azote de l'air, qu'ils rejettent dans la terre, et donc en plus vous avez beaucoup moins besoin d'engrais azotés. Donc si vous voulez, c'est un cercle vertueux à tous les niveaux. Pourquoi on ne soutient pas plus massivement ces gens-là, ces gens qui font bien, qui produisent localement, qui permettent à la terre de se développer sans engrais azotés? Pourquoi? Moi, je vous le demande, c'est une question que je pose au pouvoir public. Si vous voulez, il y a un moment où c'est très bien toutes les initiatives de gens comme André Pochon, comme des gens effectivement comme ça, qui effectivement ont voulu changer les choses. Mais il faut qu'ils soient soutenus massivement. Ils ne sont pas soutenus massivement pour le moment.
André Pochon, vous pouvez rappeler en quelques mots?
André Pochon, c'est un agriculteur qui s'est rendu compte effectivement qu'on allait dans le mur, que l'élevage industriel n'avait pas de sens, qu'il fallait effectivement revenir à des choses concrètes qui sont de remettre les animaux dans les prés. Non, mais je veux dire, c'est que du bon sens, André Pochon, hein. Et on l'a vu comme un fou furieux avant que l'INRA, preuve à l'appui, démontre qu'il avait raison sur tout et que les agriculteurs qui travaillaient avec lui gagnaient mieux leur vie que ceux qui étaient enferrés dans un système industriel. Parce que c'est ça aussi que je démontre dans ce livre et que j'avais envie de dire aujourd'hui, ce matin chez vous, c'est qu'effectivement, regardez, prenez l'élevage porcin. L'élevage porcin, les agriculteurs, les éleveurs gagnent pas leur vie. Ils sont endettés à peu près à 70% de ce qu'ils gagnent. Imaginez, vous, demain, vous allez acheter un appartement, vous allez à la banque et vous dites je veux m'endetter sur 70% de ce que je gagne. On va vous envoyer au plot, hein, ça c'est évident, quoi. Mais pas les agriculteurs bretons. Eux, on leur dit allez-y, endettez-vous, continuez. Ils se retrouvent avec des bâtiments high-tech, avec leurs animaux dedans. Ces animaux sont parqués au-dessus de leur déjection. Du coup, ils sont obligés d'ingurgiter la moitié des antibiotiques de France. Voilà, les porcs, ça ingurgite la moitié des antibiotiques de France. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Se crée un problème d'antibiorésistance. C'est-à-dire qu'en fait, à force de traiter les animaux, se créent des bactéries multirésistantes. Ces bactéries sont transmissibles à l'homme. Et après, nous avons de plus en plus de mal à nous soigner puisque nous n'avons plus de solution curative. Voilà. Ça, c'est typiquement un schéma absurde de la fourche à la fourchette. Pourquoi on continue à subventionner cette agriculture-là? Pourquoi on n'aide pas ces gens à sortir de cette agriculture-là? Je veux dire, il y a un moment aussi où il en va de la santé publique. C'est-à-dire que l'antibiorésistance, aujourd'hui, on peut parler des cancers environnementaux à cause des produits phytosanitaires, mais l'antibiorésistance, aujourd'hui, c'est 400 000 patients qui sont touchés chaque année en Europe, c'est 25 000 morts, et on a l'impression que ce n'est pas un problème. Ainsi, c'est un problème crucial. Je veux dire, il y a un moment où, effectivement, il sera temps de se saisir de ces questions-là. Regardez aussi la question toujours sur l'élevage. Quand vous allez visiter, moi j'ai visité beaucoup d'usines de fabrication d'aliments. Vous allez visiter ces usines de fabrication d'aliments et vous retrouvez dans une même salle des nutritionnistes et des traders, en fait, qui achètent les matières premières les moins chères sur le marché et qui essayent, vaille que vaille, avec ces matières premières qu'ils ont achetées le moins cher possible, de composer de la nourriture pour les animaux. Bon, ben voilà, forcément, comment vous voulez que ça finisse bien, ces histoires-là? C'est comme ça qu'on se retrouve, effectivement, avec l'histoire de la dioxine dont on a déjà parlé. Parce que qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire? Ils ont essayé de refourguer des huiles qui étaient normalement faites pour les biocarburants dans la nourriture pour les animaux. Mais c'est normal. Vous allez les voir, ils vous disent on fait des tests dioxines. Alors, yeah, c'est super, un test dioxine quand même, c'est du sérieux, c'est du lourd. Des tests métaux lourds, hein, c'est vachement bien et tout. Et vous les avez quand, les résultats des tests? Six semaines après, je les regarde, 6 semaines après, vous bloquez les lignes de fabrication jusqu'au résultat. On me dit, bah non, 6 semaines après, ça fait bien longtemps qu'il leur a bouffé cette dioxine, le porc. Donc, si vous voulez, il y a un moment en plus où tous les systèmes de contrôle sont des systèmes de faux jetons, où en fait, on fait ça, soi-disant, pour rassurer le consommateur, mais cette dioxine, il leur a bouffé depuis longtemps, quoi.
Alors, vous dénoncez ce système absurde, ce système de shadow. À votre place, on a eu hier Ariane Venin qui dénonçait la même chose, hein, par rapport aux énergies renouvelables, dans lesquelles on investit peu, comparé à ce qu'on fait dans le nucléaire. On a eu Marie-Monique Robin en ligne qui disait aussi que c'est une société absurde qui met des pesticides d'un côté dans l'alimentation, qui rend malade et qui donc oblige des médicaments qui ne sont plus d'ailleurs capables de soigner quoi que ce soit. Vous posez souvent la question pourquoi, mais alors moi je vous la retourne, je ne vais pas vous demander pourquoi, mais comment vous expliquez ça? Comment vous expliquez qu'un pays comme la France, qui n'est pas un pays d'attardé, mentaux, est capable d'accepter, de se contenter d'une situation qui est décrite et décriée comme totalement absurde?
Parce que, si vous voulez, on ne remet jamais en cause la solution de l'industrialisation. Donc, si vous voulez, à partir du moment, c'est ça le truc des shadocks. Si vous voulez, regardez, je vais vous prendre un truc concret, le lisier. Le lisier, c'est quoi? C'est effectivement, jusqu'à présent, vous aviez du fumier. Vous aviez du fumier, pourquoi? Parce que les cochons, ils étaient sur paille. La paille, avec les excréments des cochons, ça faisait du fumier. Le fumier, c'était quelque chose qu'on arrivait à gérer, c'était l'or noir des étables, c'était super. Bon, on a décidé de rentabiliser les élevages, donc on a enlevé ces pauvres cochons de leur paille où ils étaient bien peinards, et on les a mis sur des caillebotis. Les caillebotis, c'est des espèces de petites lattes en plastique. Donc les cochons sont au-dessus de leurs excréments, de leur urine et de leur... voilà, et ça fait du lisier. Le lisier, c'est pas du fumier, donc c'est un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le lisier? Voilà, ils étaient un peu embêtés, ils se sont dit, le lisier, c'est quand même beaucoup moins bien que le fumier, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'à cela ne tienne, on va pas revenir en arrière et mettre les bêtes sur la paille, ça ce serait trop simple, trop écolo, ce serait... Donc ça, c'est pas bon, hein, c'est pas une bonne solution. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire des usines de retraitement du lisier. Alors pour faire des usines de retraitement du lisier, il faut que les élevages soient plus grands. Donc on va concentrer l'élevage. Donc si vous voulez, c'est comme ça qu'en 40 ans, on a à peu près multiplié le cheptel par 2 et divisé par 50 le nombre d'exploitations. Donc on a fait des élevages de plus en plus gigantesques parce qu'il fallait retraiter la merde, hein. C'est ça en fait, le problème il est là. Donc voilà, alors on retraite la merde pendant 20 ans, on se rend compte que ça sert à rien. Parce que bon, voilà, on a beau brasser, parce que, alors, je vous le conseille, moi, j'en ai visité quelques-uns.
Si, ça fait des algues vertes quand même.
Non, c'est très chic. Non mais je vous conseille d'aller visiter les trucs de brassage de merde à ciel ouvert qu'il y a en Bretagne. Parce que moi j'en ai visité quelques-uns, mais il y a de quoi tomber raide, ils comprennent pas pourquoi les voisins sont pas contents, honnêtement. Moi je comprends, hein. Et si vous voulez, donc ça marchait pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Du coup, ils se sont dit, bon, ça suffit pas, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire maintenant? On va méthaniser la merde. Parce qu'en fait, c'est ça, on va faire de l'électricité à partir des excréments des porcs. Et donc là, du coup, quand même, plan algues vertes, 134 millions d'euros dépêchés par notre Premier ministre préféré, François Fillon, 60 millions débloqués par l'ADEME. Alors, tout ça, c'est notre argent hein, quand même, hein, je veux dire, c'est... Voilà, hein. Pour faire de l'électricité à partir des excréments. Bon, alors, en plus, si vous voulez, là, plus personne n'avait rien à dire, parce qu'avec cette électricité, elle serait faite non seulement avec le lisier, mais les algues vertes dont vous parliez tout à l'heure de façon un peu cynique. Donc, tout était bien dans le meilleur des mondes, c'est-à-dire la pollution et les excréments enfin réconciliés sur l'autel d'une électricité verte. Bon, en plus, en Bretagne, on manque d'électricité, donc tout allait bien dans le meilleur des mondes. Si ce n'est que Eau et Rivières de Bretagne s'est amusé à calculer l'azote qu'il y avait, parce que c'est ça qui pose problème, avant et après méthanisation, et il y avait plus d'azote après méthanisation qu'avant. Parce que le caca, c'est de l'eau, principalement en gros hein, de porc et 90%, et donc ça suffisait pas pour méthaniser, donc il fallait rajouter du maïs, donc à la fin il y avait plus d'azote, donc de nitrate qu'avant, voilà. Donc si vous voulez, le système il est là, c'est-à-dire qu'au lieu de se dire bon ben on va déconcentrer l'élevage, parce qu'en fait je veux dire en Bretagne il y a trois fois plus de porcs que de bretons, c'est quand même un vrai problème, hein. Donc on se dit pas non on va déconcentrer l'élevage, on se dit on va créer des usines à merde, parce que c'est ça en fait le vrai truc, c'est ça. Donc si vous voulez, c'est toujours comme ça, donc c'est toujours la solution. La solution la pire. Alors pourquoi des gens intelligents cherchent toujours les solutions les pires? J'en sais rien. C'est peut-être un problème d'énarques, hein, mais il n'y a pas que les énarques, parce qu'aux États-Unis c'est pareil. Je sais pas. Mais effectivement, on peut dire que si vous voulez, on ne cherche jamais, on ne retient jamais des solutions de bon sens. On retient toujours des solutions de Shadok. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit des solutions de Shadok dans mon livre. Voilà. C'est toujours des solutions de Shadok.
Alors nous sommes toujours en direct du salon Planète Durable à Paris en compagnie d'Isabelle Saporta, passionnante. On va faire une petite pause histoire de digérer tout ce que vous venez de nous dire, tout ce qu'on a entendu. Petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Fréquence Terre. La Radio Nature.
retour sur le plateau de Fréquence Terre, sur le stand féminin-bio.com en direct du salon Planète Durable, le salon qui se termine ce soir. Nous sommes en train de parler agriculture, le livre noir de l'agriculture écrit par Isabelle Saporta avec nous sur ce plateau. Et donc nous étions en train de parler de ces usines de retraitement de lisier, voilà, on va
dire. De ces usines à merde, vous aviez envie de dire, mais vous êtes retenu.
Je n'ose pas, mais je vous laisse l'expression.
Voilà.
Donc ces usines totalement shadowkiennes,
hein,
pour reprendre votre terme. On était en train de se demander comment on avait pu en arriver là. Vous accusez clairement le syndicat FNSEA de truster un peu toutes les décisions. Est-ce qu'il y a une résistance qui existe? Il y a eu José Bové un temps avec la Confédération paysanne. Est-ce que la Confédération
fait un travail incroyable, et vous avez aussi des gens au sein des jeunes agriculteurs. Alors je sais que les jeunes agriculteurs généralement ce sera les cadres de demain de la FNSEA, mais vous avez des gens quand même, vous avez des voix dissonantes. Vous avez notamment le jeune là, parce que Nicolas Sarkozy est tout sauf un sot, donc il l'avait choisi pour être face à lui, vous savez, dans son truc face aux Français là, qui est Michael Poyon, qui est un jeune des jeunes agriculteurs. Vous avez des gens qui sont en train d'avoir des positions effectivement dissonantes et qui veulent que ça change. Bon, c'est pour ça qu'il faut garder espoir, parce que si vous voulez, dans cette jeune génération, moi je les ai beaucoup rencontrés, et si vous voulez, ces gens-là, ils seront, si vous voulez, il y a eu effectivement le sortir de la Seconde Guerre mondiale, on était en pénurie alimentaire. On a mis c'est nous hein, qui avons poussé les pouvoirs publics, l'INRA, tout ça, les agriculteurs dans le système productiviste en disant il faut produire pour nourrir le monde. C'est vrai. Vous avez toute la génération qui était aux manettes dans les années 70, qui a vécu de ça, qui a plutôt pas mal vécu de ça. Et maintenant vous avez notre génération qui est à peu près, enfin vous êtes plus jeune, mais enfin qui doit avoir à peu près une petite trentaine d'années, et effectivement qui se rend compte que elle est endettée jusqu'aux yeux, hein, que elle vit pas bien avec ça. C'est-à-dire que vous allez voir les éleveurs laitiers, ils vous disent mais moi, je comprends pas. Mon père, avec 30 vaches, il s'en sortait super bien. Moi, j'en ai 65 et je gagne pas ma vie, quoi. Et donc, ces gens-là, ils voient qu'ils ont investi massivement dans des locaux high-tech et qu'ils sont super endettés, etc. Et ils se rendent compte que ça marche pas. Donc, c'est de cette génération-là, finalement, qu'on va obtenir quelque chose, parce qu'ils se rendent compte matériellement qu'ils s'en sortent pas. Et par ailleurs, la génération d'avant, puisque vous avez reçu Marie-Monique Robin, elle a dû vous en parler très très bien, la génération d'avant est en train de tomber malade. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, les premières victimes de ces produits phytosanitaires, alors phytosanitaires, hein, c'est le mot qu'on dit maintenant, parce que les lobbies des pesticides ne veulent plus qu'on dise pesticides. Donc phytosanitaire, ça fait moins peur, mais en fait, c'est pareil.
C'est
hein, donc c'est la même chose, c'est les insecticides, sont les pesticides. Et c'est vrai que ces gens sont en train de mourir aujourd'hui de ces produits, de ces pesticides. Et les jeunes agriculteurs s'en rendent compte. C'est-à-dire que finalement, agriculteur aujourd'hui, c'est vraiment un sacerdoce. Donc vous gagnez pas votre vie, vous avez une bonne chance de tomber malade. Quand même, l'INSERM vient de sortir une étude qui prouve qu'ils ont deux fois plus de risques de développer une maladie de Parkinson que la population normale. Donc si vous voulez, il y a un moment, faut vraiment avoir la niaque hein, pour devenir agriculteur aujourd'hui.
Et alors cette résistance, on va dire, est-ce qu'elle a voix au chapitre? Est-ce qu'on peut l'entendre suffisamment?
Ben, elle a voix au chapitre, on l'entend, mais effectivement, elle est malmenée. Moi, je vois effectivement d'abord que ce soit cet exemple-là que j'ai en tête, qui est Michael Poyon, aux jeunes agriculteurs, c'est une voix minoritaire des jeunes agriculteurs. C'est un monsieur qui a beau avoir énormément d'intelligence, qui se retrouve sur un strapontin injectable à chaque fois, parce qu'effectivement, il a une voix discordante. Et puis par ailleurs, si vous voulez, ce sont des gens qui ne sont pas soutenus. Moi, j'ai visité beaucoup d'agriculteurs, de jeunes agriculteurs qui étaient en conversion en bio. Et ils me disent, mais je suis très très embêtée parce que là, j'ai été voir mon technicien, parce qu'en fait, ces gens-là sont coachés par des techniciens agricoles qui sont fournis par leur coopérative agricole. J'ai été voir mon technicien et je lui dis, je suis dans une impasse technologique, je voudrais passer en bio, qu'est-ce que je fais? Il me dit, mais le problème, c'est que les techniciens ne sont finalement formés que pour vous dire, faut mettre des phytos à telle date, à telle date et à telle date. Finalement, le premier interlocuteur, si vous voulez, technologique de l'agriculteur, c'est effectivement le technicien agricole. Et le technicien agricole, c'est quoi? Le technicien agricole, finalement, si vous voulez, c'est le commercial. C'est comme la visiteuse médicale qui vous vend des médicaments et qui gagne une partie de son pourcentage, si vous voulez, à la vente de médicaments. Ben, le technicien agricole, c'est pareil. Une partie de son salaire, si vous voulez, c'est le pourcentage de phytos qu'il aura vendu. Donc, il y a un vrai problème, c'est-à-dire que là, d'ailleurs, c'est ce que réclame la FNAB, c'est-à-dire la Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique, elle réclame effectivement qu'on investisse massivement dans la recherche agrobiologique, enfin dans la recherche bio, en fait. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir aujourd'hui que les agriculteurs qui veulent se convertir aient un interlocuteur qui soit raisonné et qui puisse leur parler, les aider. Moi, j'ai été voir de nombreux aussi arboriculteurs bio. Les arboriculteurs bio, ils vous disent, on a été obligé de se former en Allemagne, on a été obligé de se former en Suisse, parce qu'en France, personne n'était capable de nous former. Et donc voilà. Et donc après, qu'on s'étonne pas des 36 traitements reçus par les pommiers que ça coûte 1 400 € à l'hectare de faire de l'arboriculture, parce que c'est un des...
Il faut revoir tout le système de formation, les lycées agricoles,
tout
j'imagine. Toute la... Ça n'existe pas pour l'instant.
C'est en train. Les lycées agricoles sont en train d'évoluer. C'est en train de changer. C'est évident, c'est en train de changer. Même l'INRA, qui était quand même le bastion de l'agriculture productiviste, est en train d'évoluer. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur la génétique, par exemple, des variétés, des fruits. Et la génétique, quand je dis génétique, c'est pas les OGM, hein. C'est-à-dire qu'ils sont en train de travailler sur le fait qu'effectivement, en croisant des variétés anciennes, on obtienne des fruits résistants aux maladies, sans OGM, bien sûr, hein. Mais effectivement, donc, qui permettent de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Le problème, si vous voulez, c'est que pour le moment, l'argent qu'on met sur cette recherche, l'argent qu'on met dans ces lycées agricoles, par rapport à tout l'argent qu'on peut mettre dans la recherche sur les phytos, bon, bah, c'est exactement comme la différence entre l'argent que vous mettez sur les nouvelles technologies et l'argent que vous mettez sur le nucléaire. C'est-à-dire si à peu près vous avez 90% de l'argent qui est mis sur la recherche phyto et 10% sur le bio, bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a un moment, il va falloir un rééquilibrage massif. Et le rééquilibrage massif, là, on a aussi notre voix au chapitre, parce que je discutais avec une de vos auditrices tout à l'heure pendant la pause, elle me disait, mais que faire? Il y a aussi, maman, c'est les élections hein, l'année prochaine, c'est le moment de taper du poing sur la table, de dire à Fillon, quand il sort tout content du congrès de la FNSEA, en disant à l'environnement, c'est un boulet environnemental, ça commence à bien faire, c'est aller lui dire, mais ma voix, tu l'auras pas tant que tu tiendras ce genre de discours absurde, dire la même chose à la droite qu'à la gauche d'ailleurs, hein. Moi ça m'était égal, les gens ils votent pour ce qu'ils veulent, mais au moins qu'on fasse pression, si vous voulez, qui se disent pas qu'en toute impunité ils peuvent tenir ce discours qui est de dire rien à foutre des générations futures, rien à foutre de votre santé, rien à foutre de celle de vos enfants, ce qui compte pour nous c'est les lobbies agricoles. Non, ce qu'il faut dire c'est qu'à chaque fois qu'ils ont un dérapage comme ça verbal, de leur dire non mais ça c'est pas possible, nous ce qu'on veut au contraire c'est que les agriculteurs vivent bien, que 96% des points de surveillance de nos eaux de surface ne soient pas pollués par les pesticides et qu'on s'en sorte. Parce que si vous voulez, il y a un moment où financer à hauteur de plus de 12 milliards cette année, et encore je dis 12 milliards 5, je ne compte pas tout le reste. En fait, en vrai, on est à peu près à 16 milliards 5. 16 milliards 5, cette agriculture, pour qu'elle soit exsangue financièrement, pour que les agriculteurs soient malades, et pour que nous, consommateurs, on ait perdu confiance dans notre assiette, là, il y a vraiment un vrai problème, quoi.
Vous parliez des élections. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques qui soutiennent ce discours que vous avez? Est-ce que, je ne sais pas, Europe Écologie Les Verts est en accord avec ça et est prêt à faire des changements?
Bah, écoutez, moi, je peux pas dire... Il n'a pas été contacté. Je veux dire, c'est sûr que Europe Écologie, c'est plus leur genre de beauté. Hein. Pour le moment, on peut pas dire, on les entend pas tellement là-dessus. Hein, donc, ce serait bien qu'ils se bougent un peu aussi, parce que c'est vrai que là, c'est les élections. Là, on entend le maire sortir toutes ces bêtises là-dessus et Fillon lui emboîter le pas. Et j'ai pas entendu. Alors peut-être que c'est les médias qui les ont pas relayés, mais j'ai pas entendu qui que ce soit chez Europe Écologie qui se soit dressé en disant c'est inacceptable. Comment on peut continuer comme ça? Donc c'est sûr qu'il y a des gens comme José Bové qui se sont battus pendant des années sur ces questions-là. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, politiquement, on n'a pas l'impression qu'il y ait de courage pour aller effectivement se confronter à ces gens-là. Et pourtant, ce serait quand même pas très compliqué. Je veux dire, il y a un moment, rééquilibrer les aides agricoles, c'est pas quelque chose qui est infaisable. C'est faisable.
Vous avez évoqué la PAC tout à l'heure pour 2013, justement. Est-ce qu'il y a un peu d'espoir à l'horizon 2013 de... Parce que moi, j'avais entendu parler d'une volonté, en tout cas, de favoriser l'agriculture écologique au niveau européen. Est-ce qu'il y a un espoir du côté de l'Europe ou...
Ben, je vous dis, on a un très bon commissaire qui est effectivement Dacian Ciolos, qui a vraiment envie de verdir la PAC et qui a vraiment envie de faire des choses. C'est quelqu'un de remarquable. Il a dit, par exemple, qu'il voulait faire un plan protéines en Europe. Et il a dit deux choses de très bien. Un plan protéines en Europe, ce qui nous éviterait effectivement d'importer 72% de nos protéines des pays les plus pauvres, qui éviterait aussi de continuer à engendrer de la déforestation massive dans ces pays d'Amérique latine. Tout ça pour effectivement faire des cultures qui ne servent qu'à nourrir nos animaux de rente et qui ferait en sorte aussi que dans ces pays-là, on ne laisse pas tomber entièrement l'agriculture vivrière pour faire de l'agriculture industrielle pour nous. Donc ça, c'est parfait. Il a dit même une deuxième chose encore plus intéressante. Il a dit hors de question de faire de la Roumanie, l'Argentine européenne. Donc on va relocaliser les protéagineux, on va faire en sorte... Parfait. Maintenant, Dacian Ciolos, c'est un homme seul, qui a beau être remarquable, qui doit faire face à tous les lobbies. Et pour le moment, ce que je vous dis, la seule chose qu'ils aient réussi à faire, les ministres de l'Agriculture réunis le 23 mars dernier, c'est de dire statu quo ante sur les aides, on continue à donner massivement le plus d'aides aux plus gros. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire... En plus, au plus gros, le plus destructeur d'emplois. C'est-à-dire qu'ils auraient pu au moins dire au plus gros, mais qui maintiennent un minimum d'emplois. Non, non, ils s'en foutent. Ils se posent même pas cette question. On est passé de 6 millions d'agriculteurs au lendemain de la Seconde Guerre mondiale à moins de 800 000 aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, cette agriculture est destructrice d'emplois. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, où on est en train d'avoir un chômage massif, d'avoir des problèmes environnementaux massifs, qu'on ne se dise pas qu'il faille investir massivement, pour le coup, dans une agriculture vertueuse, c'est quand même hallucinant. Moi, j'ai été voir un homme qui était incroyable, qui fait des tomates bio en banlieue parisienne, et qui me disait qu'il y a un ancien sélectionneur de chez Monsanto. Donc, imaginez, lui, il a vu vraiment ce que c'était que l'agro-industrie de l'intérieur. Et cet homme-là, il est devenu effectivement agriculteur bio, il fait des tomates bio. Et il me dit, moi, ce que je voudrais, c'est que dans chaque tomate que les consommateurs m'achètent, ils pensent, un, à la nature que j'ai préservée, au captage d'eau que j'ai préservé, et deux, aux emplois que j'ai créés. Parce que c'est ça, en fait, en plus, le problème de ces tomates industrielles, de tous ces produits industriels, c'est qu'en plus, ils sont destructeurs d'emplois. Vous voyez, là, je vois, effectivement, on a tous vécu à l'heure japonaise, avec ce drame de Fukushima, avec ce drame du nucléaire. Moi, personne, j'ai entendu aucun homme politique me dire, tout le monde dit oui, mais comment vous voulez, on va pas revenir à la bougie. Vous entendiez Zemmour et Nolo l'autre jour chez Ruquier en train de dire, on va pas revenir à la bougie quand même. Vraiment, c'est trop con, c'est vraiment un truc d'écolo. Comment vous voulez qu'on revienne en arrière? Ben, écoutez, moi, j'ai regardé les chiffres de l'élevage. Une truie en France, elle consomme 1171 kWh. Voilà, par truie, hein. Imaginez, on a plus d'1,5 million de truies en France. Voilà. C'est-à-dire que c'est la consommation annuelle à peu près d'un Albanais, je crois. Hein, voilà. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment des moyens très ponctuels hein, pour consommer moins d'électricité. Vous voyez, déjà, on ne chaufferait pas nos porcs comme on les chauffe, puis nos poulets, puis nos tomates. Hein. Je veux dire, voilà, nos petites tomates aussi qui sont sous serre. 97% de la production française de tomates a poussé sous serre, à contre-saison. Hein. Tout ça pour qu'à la fin, en plus, dans votre tomate, il n'y ait plus de vitamine C, il n'y ait plus de lycopène. C'est-à-dire que c'est bénéfice de A à Z. C'est-à-dire que c'est énergivore, ça n'a plus aucun intérêt nutritionnel. Et en plus, ça détruit des emplois.
Et on a des résidus de pesticides.
Et on a des résidus de fongicides parce que quand même, c'est sous serre, donc les insectes n'attaquent pas. Mais par contre, ça fait des champignons parce qu'imaginez-vous, les tomates en hiver en Bretagne, c'est humide, il fait chaud, il fait bien moite, donc ça fait des bons champignons. Mais c'est pas grave parce qu'à l'INRA, ils sont en train de travailler comme des dingues en ce moment parce qu'ils se sont rendus compte qu'en mettant plein d'azote sur ces tomates-là, il y aurait plus de champignons. Donc après, ça partira directement dans nos nappes phréatiques. Tout va bien.
Alors les pesticides, justement, vous en parlez dans ce documentaire. Manger peut-il nuire à la santé? C'est une question, ce n'est pas encore une affirmation.
C'est parce qu'on n'a pas osé dire manger nuit à la santé, mais en fait, en vrai, c'était un peu ça le vrai fond de notre pensée.
Alors c'est un documentaire qui est réalisé par
Éric Guéret.
Voilà. On va en extraire... Écoutez un extrait, c'est enfin pas un extrait, mais c'est une présentation d'Éric Guéret de ce reportage qui explique comment vous avez tracé les produits chimiques dans la nourriture.
Comme une enquête policière, on remonte les filières de l'alimentation pour trouver l'origine des produits toxiques qu'on a dans le sang. On a remonté toutes les filières des aliments qui sont très très consommés, à savoir le pain, le saumon, le porc, les fruits et légumes et l'alimentation industrielle, pour savoir exactement ce qu'il en était du risque de l'alimentation et des liens entre l'alimentation et la santé. On a découvert que la chimie est omniprésente dans l'alimentation et ça, c'est une révolution. Avant les années 50, tout le monde mangeait bio. Aujourd'hui, tout le monde mange chimique. Il y a plus de 100 000 molécules chimiques qui ont été inventées dans le monde en moins d'un demi-siècle et toutes ces molécules chimiques, on les retrouve dans l'environnement et dans notre alimentation.
C'est extrêmement inquiétant, là, ce qu'on est en train d'écouter.
Mais en fait, parce que le documentaire commence par ma prise de sang. Donc, on m'a pris du sang, pauvre de moi, hein, j'ai donné de ma personne, vous voyez.
C'est l'implication.
Ouais, on m'a pris du sang et on s'est rendu compte que dans mon sang, qui fait plutôt une trentenaire, en bonne santé, qui mange plutôt bio, etc., mais qui mange pas complètement bio, parce que c'est pas possible. Enfin, c'est sûrement possible, mais enfin, c'est compliqué. J'avais à peu près 40 résidus de pesticides différents, du DDT, des PCB, des dioxines, enfin, plein de joyeusetés, quoi. Et donc, si vous voulez, voilà. C'est-à-dire que maintenant, on a acté qu'aujourd'hui, chaque Français, chaque paysan, chaque habitant du monde avait en moyenne une soixantaine de résidus toxiques dans son sang et que c'était normal. Ben, nous, on s'est dit que c'était pas normal. Vous voyez, il y a une récente étude de l'INVES qui vient de sortir et qui ne veut pas non plus être taxée d'être des green activistes, d'être des militants.
L'INVES, vous pouvez rappeler.
C'est l'Institut national de veille sanitaire. Et l'INVES a prouvé qu'effectivement, en France, on avait à peu près 80% de la population qui avait dans ses urines une contamination de 80% de la population aux pesticides organophosphorés et 90% aux pyréthrinoïdes. Enfin bref. Quoi qu'il en soit, on a tous effectivement des produits phytosanitaires dans notre urine. Et à hauteur à peu près de 3 fois plus que ce qu'ont les Américains. Donc il y a un moment où, voilà, la question c'est, on est quand même le premier pays consommateur européen de produits phytosanitaires. Voilà, on a ce triste record.
Est-ce qu'on a une idée des conséquences de ces produits chimiques ? Ça pourrait être des produits chimiques totalement anodins et
bon,
on s'en soucierait pas.
Ouais.
Là, ils provoquent des cancers, ils provoquent des maladies.
Si vous voulez, il y a de plus en plus d'études qui s'accumulent, notamment sur les agriculteurs, parce que ce sont les premiers touchés. Donc effectivement, 2 fois plus de risques de développer la maladie de Parkinson, 2 fois plus de risques de développer certains cancers de la prostate, certains cancers du sein et de leucémie, des cancers du cerveau. Et pour nous, consommateurs, effectivement, alors la grande question, c'est de dire, mais est-ce que nous, ça nous touche aussi ? Ben écoutez, en tout cas, on peut se poser la question, puisque ces 25 dernières années, il y a une augmentation à peu près de 90% de l'incidence des cancers en France. On peut à peu près se dire que 40% sont dus à des considérations démographiques, c'est-à-dire que la population vieillit. Mais il reste 50% dont on pense que ce sont des causes environnementales. Donc il y a un moment, voilà, cet institut de veille sanitaire a dit en décembre dernier qu'il y avait un enfant sur 440 qui aurait en France un risque de développer avant 14 ans un cancer. Maintenant, est-ce qu'on a envie de continuer à vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête ?
Alors comment on peut faire ? Il y a deux solutions. C'est soit on arrête totalement de manger, mais c'est pas forcément durable.
Le problème, c'est qu'en plus, ça suffit pas. C'est-à-dire que là, regardez les dernières études, elles prouvent quoi ? Que quand il y a de l'épandage autour de chez vous, à plus d'un kilomètre 5, on retrouve des résidus de pesticides dans nos moquettes à l'intérieur de nos maisons. Donc ce qu'il faudrait faire déjà, ça s'est fait en Argentine. Donc si ça se fait en Argentine, je ne vois pas pourquoi ça ne se ferait pas chez nous. À Santa Fe, ils ont pris un décret de restriction, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dépendre à moins de 800 mètres des habitations. Déjà, rien que ça, pourquoi nous, en France, il n'y a pas ces restrictions ? Il y a des restrictions avec le vent. Alors, vous avez vu, il y a eu un problème avec des arboriculteurs, finalement, qui ont été relaxés. On a décidé que bien qu'ils aient sans doute épandu à un moment où il y avait du vent supérieur à ce qui était autorisé. Voilà. Alors, tout passe à la trappe. Vous voyez ce que je veux dire.
Retourner à la question. Pourquoi il n'y a pas de réglementation ?
Eh ben, c'est un manque de courage politique toujours. Non, mais le problème, c'est ça, c'est que les lobbies en France sont puissants, c'est tout. Hein. On a la FNSEA qui veille au grain. On a, dès qu'on commence à toucher au Grenelle de l'environnement, on a des espèces d'organes qui se créent, comme souvent les fruits et légumes de France, qui disent « Ah là là, on est désespérés, on n'arrive plus parce qu'il n'y a plus les bons phytosanitaires qu'on pouvait mettre partout, on n'arrive plus à s'en sortir. » Et ces gens-là, aujourd'hui, pèsent plus lourd dans la balance, effectivement, que les gens qui veulent développer une agriculture vertueuse.
Isabelle Saporta, votre documentaire, comme celui d'ailleurs de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, décrit cette réalité, montre qu'il y a effectivement une corrélation entre l'utilisation massive de pesticides dans l'alimentation et l'augmentation importante de cas de cancer. Elle démontre même dans son documentaire que c'est même pas la dose qui est le problème, puisque à des doses infinitésimales, il y a un effet cocktail qui est redoutable au niveau endocrinien. On a une auditrice justement qui nous pose une question. J'ai vu ce documentaire, j'ai été choqué de voir des porcs bodybuildés. Je consomme bio, mais je souhaiterais aller plus loin. Comment ? Donc on en est toujours dans ces mêmes questions. Comment agir en sachant que vous renvoyez souvent les politiques dans leur but? Je serais tenté de vous dire, sans prendre leur défense, c'est quand même nous qui les élisons.
Bah oui, il faudrait qu'on l'a. Là, c'est le moment de leur casser un peu les pieds.
Hein. On est dans un pays de droit, un pays théoriquement citoyen. Ça veut dire que.
On est un pays de droit, être citoyen, tout ce que vous voulez. Mais enfin, regardez, il y a des sujets pour lesquels il n'y a aucune transparence, que ce soit le nucléaire, par exemple, ou que ce soit effectivement ces problèmes d'ordre de produits phytosanitaires, etc. Il n'y a aucune transparence. Ça, effectivement, on a des politiques qui prennent des décisions qui ont une incidence directe sur notre santé. Et là-dessus, on n'a aucune voix au chapitre. Si vous demandez aux Français, est-ce que vous avez peur des pesticides, est-ce que vous voudriez qu'il y en ait moins, à 90%, ils vont vous dire oui. Mais est-ce qu'on leur demande leur avis aux consommateurs, aux citoyens? Non. On n'arrête pas de nous dire qu'on est des malades mentaux, qu'on est. Moi, quand j'ai affaire à la FNSEA, c'est ce qu'ils me disent. Ah, mais c'est pas un problème, on n'arrête pas de diminuer, il y a de moins en moins de médicaments. C'est marrant parce que pourtant, l'exposition aux médicaments a augmenté de 12,5%, mais il y en a de moins en moins. Ben oui, parce qu'on utilise les plus performants pour soigner les porcs, vous voyez? Le truc de dingue, hein. Les produits pesticides, ça n'arrête pas de diminuer. Ah, ben c'est quand même marrant parce que pourtant, ça se voit pas tellement, hein, que ça n'arrête pas de diminuer. Comment ça se fait qu'on reste le premier pays consommateur? Comment ça se fait 96% des points de surveillance de nos eaux de surface soient pollués? C'est parce qu'effectivement, il y a un manque de courage politique. Là-dessus, il n'y a rien à faire. Moi, cette dame dont vous me parlez, cette auditrice qui dit elle mange bio, je dis mais bravo, bravo. Regardez, le porc bio, c'est 50 000 carcasses cette année, 26 millions pour le non bio. Faut s'accrocher pour bouffer du porc bio en France, hein, je peux vous le dire. Hein, faut vraiment avoir le moral chevillé au corps. Hein.
Je fais exprès de vous secouer un peu, mais visiblement, ça ne va pas vous poser de problème. Le politique qui aurait le courage de dire ce que vous dites. On vit dans un système absurde depuis une bonne cinquantaine d'années. Allez, disons 30, pour faire court. Vous êtes tous des shadows, vous pompez. Ça tue nos agriculteurs, ça tue nos terres, ça tue les gens qui mangent. Vous croyez vraiment qu'il va être élu? Est-ce que c'est de courage politique qu'il s'agit, ou est-ce qu'il faut aussi élever un peu le niveau d'information et de conscience?
Mais moi, je suis persuadée du niveau d'information et de conscience. La preuve en est du succès de mon livre. Hein, je veux dire, il était parti avec un tirage à 8000 exemplaires. On en est à 100 000 aujourd'hui. C'est bien que les gens, ça les intéresse et qu'ils sont vraiment, vraiment concernés par ces questions-là. Donc ça, moi, je suis persuadée que les gens, on n'arrête pas de les prendre pour des abrutis. Les consommateurs sont tous sauf des abrutis. Ils sont très vigilants, ils font très attention. Par contre, effectivement, en face d'eux, ils ont des politiques qui ne les écoutent pas, qui s'en contrefichent et qui ne font que le jeu des lobbies. Maintenant, nous, consommateurs, on peut essayer de se battre, on peut se révolter, mais la première arme, effectivement, c'est notre bulletin de vote. Et c'est de dire aux politiques, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles, arrêtez de faire des non-choix pour nous, et soyez un petit peu courageux. Mais le problème, c'est que vous voyez, voilà, l'élection présidentielle, hein, le premier geste de Fillon, de notre Premier ministre, c'est de dire quoi? C'est de dire, il y en a assez du boulet environnemental, il y en a assez de l'environnement. Voilà, parce qu'il veut les voix des agriculteurs. Mais j'espère qu'il les aura pas.
Est-ce que vous avez eu des pressions pendant le tournage de ce documentaire « Manger peut-il nuire à la santé ?»
Alors, pas le documentaire, mais depuis la sortie du livre, c'est juste effarant. Alors là, je veux vous dire que je suis devenue l'ennemi public numéro 1 de la FNSEA, et c'est juste effarant. C'est un harcèlement quotidien.
De quel genre de pression ?
De tout. C'est-à-dire que vous avez des sites qui sont... qui sont à limite comme agriculture et environnement, qui est d'ailleurs dont le patron vient d'ailleurs de faire un livre anti-bio, qui fait des espèces de pages diffamatoires sur moi, sur mon enquête, qui me prête des propos que j'ai jamais eus, qui donne la parole qu'à des opposants sans dire en quoi ce sont des opposants et en quoi ce sont des gens qui défendent les lobbies des pesticides. On a eu un procès justement de Daniel Sauvette, qui est le porte-parole du lobby Sauvons les fruits et légumes de France, qui nous a fait un procès qu'on a gagné d'ailleurs, hein. Mais voilà, donc si vous voulez, c'est permanent. Cet homme-là avait mis sur un site internet mon nom, mon numéro de téléphone, mon mail, mon adresse personnelle, en invitant les lecteurs de son site à venir en découdre avec moi. Donc j'ai reçu un tombereau de mails antisémite en plus, parfait, sur ma boîte mail, nickel. Donc si vous voulez, et des gens qui venaient m'attendre à la sortie de chez moi. Donc voilà, en fait, c'est, si vous voulez, c'est vraiment des gangsters, ces gens-là. C'est-à-dire qu'en plus, sous couvert d'avoir une espèce de langue de bois verbeuse comme tous les gens de la FNSEA, ils ont vraiment des pratiques de voyous. Vraiment des pratiques de voyous.
Visiblement, vous n'avez pas froid aux yeux.
Non, bah non.
Vous seriez une candidate politique pour porter ces valeurs. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager?
Mais parce que moi, je suis pas une femme politique. Moi, ce que je veux, c'est continuer à fouiner. Je pense que je ferai une prochaine enquête où je continuerai à fouiner sur d'autres sujets. Et je veux continuer à mettre effectivement la plume dans la plaie. On a besoin de lanceurs d'alerte. Moi, je veux rester un lanceur d'alerte. Je veux surtout pas être pris par ces lobbies, qu'ils soient politiques ou pas, d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce que je veux, c'est continuer à avoir cette voie libre. Et je pense qu'il y a que comme ça que je continuerai à avoir cette voie libre. Je pense que je suis plus utile là où je suis qu'en étant dans un parti politique. peut-être que ça me rapporterait plus et que j'aurais un bon petit poste et que je serais bien au chaud. Hein, c'est pas le problème. Mais la question n'est pas d'être bien au chaud. La question est de pouvoir faire entendre sa voix.
Vous êtes une militante ?
Non, je suis pas militante du tout. Enfin, je suis militante dans le sens où je suis une journaliste combative. Mais effectivement, j'appartiens à aucun parti, j'appartiens à aucune association. Et j'ai pas envie d'appartenir à aucun parti, aucune association, parce que je pense que si ma voix était autant entendue, c'est justement parce qu'elle est libre.
Le livre noir de l'agriculture, comment on assassine nos paysans, notre santé, l'environnement, c'est une enquête de Isabelle Saporta, qui est avec nous sur le stand féminin bio. On voit que le féminin et le bio a de l'énergie à revendre.
Il faut.
Merci à vous, en tout cas, Isabelle.
Merci Isabelle Saporta qui donc a tenu toute cette heure avec nous, qui nous a expliqué donc voilà ce livre noir de l'agriculture et puis ce documentaire « Manger peut-il nuire à la santé ?». Malheureusement, on n'avait pas de contradicteurs.
Et non, tant pis pour eux.
On n'en a pas trouvé non plus. Mais en tout cas, voilà, merci de nous avoir donné toutes ces informations, tous ces éclairages. Voilà, c'est aussi un article qu'on peut retrouver sur le site cedurable.info.
Avec le lien vers l'achat pour votre livre, pour tous ceux qui veulent s'informer, parce qu'effectivement, ça passe par ça. Si on veut pouvoir défendre des combats, il faut avant tout avoir une information. Et vous avez fait ce travail d'enquête, comme celui aussi de Marie-Monique Robin, comme tout un tas de journalistes indépendants qui revendiquent leur indépendance et qui, grâce à leur voix, nous transmettent une information et nous alertent sur des situations absurdes.
Merci Isabelle Saporta, merci Cyril Souche, merci à Guillaume Floquin à la réalisation.
La radio nature.